Ça va mieux, Jean-François Mignard, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue sur Esprit Occitanie, voilà, ravi de vous retrouver sur ce générique. Je vous rappelle que c'est la musique d'un film, musique italienne, et ça s'appelle Les Clowns. Tiens, pour une émission politique, c'est pas mal choisi, non, nous, Jean-François?
Nous ne voyons aucune relation de cause à effet entre le titre et le contenu de l'émission.
Pas absolument. Et pour commenter cette actualité, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maëva Fels, journaliste stagiaire, étudiante chez notre partenaire l'ISJT, comprenez l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Bienvenue Maëva sur cette émission et puis plus globalement dans la station.
Merci de me recevoir Jacques.
Alors,
et bienvenue.
Et bienvenue, oui. De quoi va-t-on parler? On va parler de la dette française et puis on fera une incursion dans les Jeux Olympiques. On va parler des élections américaines, de la bande de Gaza et de sa triste situation et puis du feuilleton tout aussi triste de l'A69, ce fameuse autoroute qui devrait peut-être un jour relier Castres à Toulouse. Voilà, c'est Ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Allez, on commence par la traditionnelle citation, ouvrez les guillemets. Il y a, c'est exact, beaucoup de folie à s'occuper d'autre chose que ce que l'on voit, fermer les guillemets. C'est bien hein, pour notre émission.
Ah, c'est vrai, mais je ne sais pas de qui c'est, mais...
Eh bien, je vais vous dire,
ça, c'est peut-être
un grand auteur français, c'est Céline.
Ah, c'est Louis Ferdinand.
C'est Louis Ferdinand, et ça se trouve dans Le Voyage, voilà.
Au bout de la nuit.
Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons être fous, puisqu'on va s'occuper de plus que ce que l'on voit.
Comme d'habitude.
Allez, quelques chiffres que j'ai extraits de TTSO, vous savez, qui est un oh là là, dis donc, je démarre difficilement, qui tous les soirs nous envoie un message avec les dernières nouvelles, les plus chaudes de l'actualité TTSO, hein, c'est sur en ligne, vous pouvez, c'est un média en ligne, vous pouvez y accéder, c'est gratuit. Alors, TTSO a fait un papier en disant les dividendes de la guerre, ils l'ont appelé comme ça, et on nous dit que chaque année, le CIPRI publie son rapport de référence sur les ventes d'armes dans le monde. Bah, il paraît que ça marche bien, parce que sur la période 2019 à 2023, les pays européens ont doublé leurs importations, 55% des matériels provenant des US, hein, avant c'était 35%, on est quand même sympa,
oui, oui.
Et 5% de France ou d'Allemagne. Les plus gros importateurs en Europe, bah, ça ne vous surprendra pas, c'est l'Ukraine qui a augmenté les commandes de 6600%, je ne vous explique pas pourquoi, qui est le quatrième importateur mondial. Et puis, la Russie, ben, on ne l'achète plus rien. La Russie, là, il n'y a plus de problème. La Russie chute à la troisième place des plus gros vendeurs d'armes derrière les US, hein, qui ont 42%, et la France, qui se taille
la part du lion,
avec 11%. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Hein. Il faut savoir quand même que selon un rapport sénatorial français, l'artillerie russe tire jusqu'à 15 000 obus par jour, deux à trois fois plus que les capacités actuelles de l'armée ukrainienne. Donc
là, à cette occasion, je vous propose d'ailleurs une citation aussi. Qui a dit « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ».
Oui, ça c'est une vieille formule. Et qui l'a dit?
C'était Anatole France.
Anatole France, oui, voilà. Voilà, voilà. Maëva, est-ce qu'à l'ISJT, on vous apprend ce type de citation?
Non, pas vraiment.
Des fois, passe partout, mais ça remplit un peu de temps hein, quand même. Alors, la machine de guerre russe tourne à plein régime. Il y a 3,5 millions de Russes qui sont employés dans le secteur de la défense. Il n'y en avait qu'un million en 2022, donc ça bosse. Hein. La Russie produit désormais 3 millions d'obus par an, là où et les États-Unis et l'Europe combinées ne peuvent en fournir que 1,2 million à l'Ukraine. C'est quand même même un peu court. Nous sommes un peu dépourvus. Et c'est vrai que depuis qu'elle est en paix, l'Europe, ça fait combien, Jean-François, 30, 40 ans, entre
ça
30
fait
et 40
notre génération,
ans,
ça fait.
Voilà. Et bien, notre génération s'est crue à l'abri de toute violence, de toute guerre.
Nous n'avions pas de guerre chaude sur notre territoire.
Voilà. Nous avons baigné dans une espèce de laisser-aller jouisseur dont peut-être il faudrait aujourd'hui sortir. Je vous propose de commencer par le premier sujet, la dette française. Alors la dette française pose quand même problème. L'hypothèse de croissance de la France pour 2024, qui était initialement à 1,4%, a été ramenée à 1%. Mais c'est une prévision qui pourrait s'avérer encore optimiste, si on en croit le ministre de l'économie. Alors bien sûr, ça implique de moindres rentrées fiscales et donc, en urgence, on nous sort un plan d'économie de 10 milliards visant à contenir le déficit public à 4,4% du PIB et donc surtout à rassurer les fameuses agences de notation sur lesquelles nous ne pouvons rien faire. C'est vrai qu'elles pourraient s'inquiéter quand même d'une dette qui s'élève aujourd'hui à 388 milliards, soit 111,9% de notre PIB. C'est quand même pas rien. Alors quand certains, comme Philippe Meyer l'a fait sur son podcast, ben, il nous a dit la chose suivante, la moitié des 10 milliards, parce qu'il a fait les calculs lui, donc j'ai repris ce que nous a dit Philippe Meyer, la moitié des 10 milliards d'euros annoncés proviendront d'annulations de crédits dans les budgets des ministères sur la gestion de leur immobilier, leur recrutement, leurs dépenses énergétiques ou leurs achats. 700 millions d'euros seront gagnés sur les dépenses de personnel, 750 millions sur les achats. Et puis, il reste 50 autres milliards alors, qu'on va prélever sur différentes politiques publiques, à commencer par le budget des opérateurs de l'État, vous savez, ces agences spécialisées, dont les crédits seront réduits d'un milliard d'euros. Bruno Le Maire a notamment cité dans celle-ci France Compétences, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage, du Centre national d'études spatiales, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou même de Business France qui aide les entreprises françaises à s'internationaliser. Et puis 1 milliard d'euros seront retranchés du budget de l'aide à la rénovation énergétique qui sera ramené de 5 à 4 milliards d'euros cette année, bien qu'il augmente par rapport à l'année précédente. Et puis, on ponctionnera 800 milliards d'euros dans les crédits de l'aide publique au développement, avec notamment une contribution réduite à l'ONU. Donc, c'est des annonces assez surprenantes qui paraissent à côté de la plaque, comme l'avait d'ailleurs noté dans l'émission que j'évoquais tout à l'heure Nicolas Bavrès, d'abord parce que c'est le ministre des Finances qui annonce le coup de rabot, ce qui montre bien qu'au sommet de l'État, président de la République et Premier ministre, puisqu'il paraît qu'il y en a un, continue de dépenser, qu'il n'y a pas de prise de conscience ni de discours politique de remise en ordre des finances publiques. La prévision de croissance a baissé à 1%. Beaucoup pensent que ce sera vraiment trop optimiste et que si on arrive à 0,7 en 2024, on pourrait être content. Et un coup de rabot totalement absurde. D'abord, pourquoi a-t-on choisi le chiffre 10 milliards? Vous le savez, non, vous ne le savez pas, je vais vous le dire. C'est qu'au-delà de 12 milliards, on doit faire une loi de finances rectificative. Et il n'est pas certain que le gouvernement la vote, puisqu'il est loin d'avoir une majorité. Et les coupes portent sur quoi? Elles portent sur l'investissement, transition écologique, réindustrialisation, espace et éducation, ça veut dire qu'on passe complètement à côté du problème. Alors, vous avez remarqué, le président Macron a pris la détestable habitude de régler tous les problèmes en sortant avec une grande complaisance le chéquier, nous venons de le voir avec la crise agricole. Au vu de l'état de la santé publique, de l'enseignement, de la justice, des besoins environnementaux, ils ne sont pas les seuls, on peut légitimement se poser beaucoup de questions quant aux cibles de ce coup de rabot. Et ce n'est pas l'agitation médiatique créée autour des onéreux Jeux Olympiques qui va occulter le problème. Les Romains, vous le savez, appliquaient la devise « Panem an circenses », et bien nous, j'ai bien peur que nous n'ayons droit qu'au circenses, mais certainement pas au Panem. Sur cette question, Jean-François, qu'est-ce que ça vous inspire?
D'abord, tout est pratiquement dit dans le brillant éditorial, bien entendu, comme d'habitude.
Merci, mais, ouais, j'ai beaucoup travaillé.
Mais ça se sent, le travail paie toujours.
C'est travaillé,
voilà. Alors, ma réaction, moi, c'est effectivement pourquoi maintenant? Je dois avouer que moi, je suis un peu interrogatif par rapport à ça. C'est une question qui entache, je trouve, un peu l'honnêteté qu'on pourrait attribuer au gouvernement par rapport à ce qui se passe.
qui va payer cette question-là? C'est une question. Alors, à la sortie du Covid, à la sortie du quoi qu'il en coûte, c'est une question que tous les économistes un peu sérieux ont posé. Je me rappelle avoir participé à des réunions avec des gens qui disaient il y a quand même maintenant une vraie question qui se pose, il faut très rapidement qu'on puisse y travailler dessus, c'est qui va payer cette crise-là? Voilà. Je me rappelle même ici, dans notre émission, où c'est une question qu'on a posée à ce moment-là. Hein. Je me rappelle Pierre Larouille qui l'a posée. En disant, il y a une ardoise absolument terrible qu'on a devant nous. Comment on va faire avec ça? Et là, tout d'un coup, alors, je dois avouer avoir été complètement scotché par les prévisions de croissance telles qu'elles ont été annoncées l'an dernier. Mais avec un aplomb absolument terrible, au mépris de. Vous pouvez là aussi raconter tout ce qu'il peut y avoir de sérieux dans le monde des économistes. On annonçait des perspectives de croissance dont tout le monde disait « ce machin-là ne tient pas la route ». Voilà. Et nous y voilà. On continue d'ailleurs, au passage, vous l'avez évoqué, on continue à annoncer des croissances, des taux de croissance qui ne sont pas... voilà. En même temps aussi, je ne peux pas m'empêcher de rapprocher ça du dernier rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir hier.
790 pages, bon, ce n'est pas une lecture facile, mais...
Voilà, alors c'est sûr qu'il n'y a pas trop d'images.
Hein, non, il n'y a pas trop d'images, mais par contre, le fond est remarquablement intéressant.
Voilà, et dans lequel, en gros, le gouvernement se fait, comme on dit trivialement, remonter les bretelles par une instance qui n'est pas quand même considérée comme étant ultra-gauchiste dans son rapport à l'économie et où on voit bien que on est un petit peu dans une impasse qui est une impasse économique. Voilà. Première réflexion. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser que tout ça ressemble fort aussi à de la... Alors, sans préjuger du fond, mais tout ça ressemble fort à des stratégies de communication sur le moment et la forme de l'annonce, ce qui quand même ne rend pas très confiant dans les personnes qui vont avoir à gérer ce problème-là au regard de la manière dont ils l'utilisent et qui fait que j'ai la sinistre impression qu'on fait de la politique effectivement de ce point de vue-là. Et que on est dans une le double discours macronien fonctionne. Hein, on promet beaucoup de choses. Je pense aux enseignants par exemple. Et par ailleurs, la rigueur, voire l'austérité est annoncée avec cette espèce de conception fataliste. Il n'y a pas d'autre alternative dont on peut imaginer que ça va faire repasser un certain nombre de choses à la trappe qui ont déjà été annoncées comme pouvant être des solutions permettant d'acheter la paix sociale. La question quand même au bout, c'est est-ce que ça commence pas à ressembler à un craquement sinistre d'une fin de fonctionnement de système économico-politique? Je sais pas.
Maëva, vous qui êtes légèrement plus jeune que nous, je dis ça par coquetterie, comment vous, de votre âge, vous voyez cette dette que nous allons vous transmettre? Parce que voilà, nous partirons, et c'est à souhaiter les premiers, vous allez rester et vous allez devoir payer.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-François. C'est souvent nous qui payons finalement, où la question se pose. Et on n'a pas souvent de réponse, voilà.
Vous êtes, oui, parce que vous allez traîner cette dette pendant très longtemps. Et comme l'a rappelé Jean-François, on a un mur de dette et on a aussi un colossal besoin d'argent pour tous ces services publics qui sont un peu à la ramasse.
Oui, la transition énergétique.
Transition, alors je ne sais pas si on peut l'appeler la transition énergétique. Alors,
c'est ce qu'on appelle la transition énergétique.
Oui, puisqu'il n'y a jamais eu de transition énergétique et qu'on emploie toujours énormément de charbon, je vous en parlerai tout à l'heure, beaucoup de bois, très curieusement, le bois a beaucoup d'avenir devant lui, le pétrole, etc. etc. Donc comment va-t-on financer cette transition, ce qui est un problème existentiel, parce que là, pour le coup, l'Homo sapiens, s'il ne se prend pas en charge très rapidement, pourrait le payer très très cher. Enfin, vous pourriez le payer, vous les jeunes, dans l'avenir. On en parlait durant notre réunion d'avant émission. Il est certain que même si aujourd'hui on arrêtait un de polluer, deux, on devenait extrêmement vertueux, il faudrait au moins 30 ans pour essayer un peu d'émerger, de sortir la tête de l'eau, et tous les efforts qu'on fera aujourd'hui. Et ça vous concerne aussi, Maëva, parce que 30 ans, ça ne vous amène pas à la retraite, il n'y en aura plus dans 30 ans. Mais quelque part, on travaille pour la deuxième, voire la troisième génération.
Exactement, oui, ce sera peut-être la génération de mes enfants.
Voilà, ben, on le leur souhaite en tout cas. Oui. Allez, deuxième sujet, les élections. On balaye hein, 4 ou 5 sujets là aujourd'hui. Les élections présidentielles américaines qui se profilent. On a appris ce matin, j'ai vu ça, dans Le Monde que finalement le duel ce serait Trump et Biden.
Il est confirmé.
Voilà, la tête d'affiche est confirmée. On en doutait peu.
Quelle surprise !
Mais la tête d'affiche est confirmée. Et puis beaucoup de gens qui jouent les cassants nous disent que M. Trump est quasiment aux portes de la Maison Blanche. Là-dessus, Maëva, vous avez réfléchi?
Oui, j'ai réfléchi. Effectivement, on retrouve Joe Biden et Trump une fois de plus.
Que dire?
Voilà, que dire.
Que dire? C'est ce qui est très, très surprenant, parce que finalement, Biden, il a l'âge qu'il a. Il a un bon bilan économiquement.
Oui, inaudible, mais bon.
Inaudible, mais bon. Il a fait, même si les effets ne se ressentent pas partout, encore, hein, parce qu'il faut un peu de temps pour que l'économie américaine se requinque, mais aujourd'hui, le taux de chômage est extrêmement bas. Son plan vert, si je puis ainsi l'appeler par parallèle avec le nôtre de l'Europe, fonctionne très bien. Il a attiré beaucoup d'entreprises. Que Biden a placé, si je puis dire, ou a orienté vers des États républicains. Et pour autant, je ne pense pas que les républicains lui en savent beaucoup gré.
Oui, c'est assez désespérant ce qui est en train de se passer aux États-Unis, puisqu'en gros, c'est un retour à la case départ concernant l'élection présidentielle. Après l'expérience qui a pu être faite in vivo de deux candidats qui sont passés, qui ont eu les manettes en main, ça interroge quand même sacrément sur le système démocratique, entre guillemets, sur lequel fonctionnent les États-Unis, sur lequel nous fonctionnons, me semble-t-il, de plus en plus. Qui s'interroge sur le fait qu'on puisse, à partir d'une évaluation objective, prendre des décisions qui sont des décisions politiquement viables et cohérentes, en gros. Premier élément, c'est vraiment, je veux dire, quand on a vu ce qui s'est passé sous le gouvernement Trump, qui ne s'en sort tout compte fait maintenant, aujourd'hui, alors au-delà des intérêts qu'il peut y avoir d'un certain nombre de clientèles, comme elles existent dans ces modalités de fonctionnement électoral, ne fonctionne en partie que à partir d'un système qui est un système d'occultation de la réalité. En gros, c'est les fameuses vérités alternatives qui sont en train de peser énormément sur les élections américaines. On dénie le réel, on refuse de voir la réalité telle qu'elle est, on l'interprète et somme toute, ça a toute légitimité pour valoir vérité et donc servir d'appui à une décision. Voilà. Donc déjà, moi, je trouve que c'est ça en dit long sur l'épuisement du système électoral américain, ça en dit long sur éventuellement ce qui nous attend. La deuxième remarque que je voudrais faire, je pense que on a vu avec Trump l'évolution du parti républicain vers quelque chose d'absolument baroque.
Il veut dire, mais Trump n'est pas sorti de rien. Ce n'est que le produit de l'évolution très surprenante et pernicieuse depuis 30 ans des républicains aux États-Unis.
Oui, mais complètement.
C'est pas une nouveauté.
Non. Et là, on a quand même un effet rupture, pour le coup, il me semble, qui est que il a tout balayé. Chez lui, dans son camp, et les plus énormités, si j'ose dire,
sont mises de côté. Et en gros, le Parti républicain arrive au bout de sa logique de fonctionnement. Alors, petite remarque, il me semble que ça bouge du côté des démocrates. Biden, peut-être pour la première fois, commence à avoir sérieusement un rappel à l'ordre. Je pense, mais je pense que ça ne concerne pas que ça. Sur les réticences qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'électorat démocrate, notamment par rapport à ce qui se passe à Gaza, et à des alignements qui sont des alignements, et une idéologie démocrate et une culture politique qui peut-être est en train, là aussi, d'évoluer, et dont on peut espérer que redynamiser quand même un parti démocrate qui du côté des perspectives au-delà du pur pragmatisme économique manque sérieusement de souffle. On ne gagne pas, et la démonstration va être en effet une élection telle que ça fonctionne aux États-Unis uniquement avec un bon bilan économique, la preuve. On vient de le dire.
On sait qu'il y a 6 États qui vont faire la décision au final.
Oui, oui. Ça veut dire qu'on gagne sur autre chose. Et qu'à l'heure actuelle, le Parti démocrate, ce qu'il présente et ce que représente Biden, n'est pas quelque chose qui soit en capacité aujourd'hui d'emporter. Alors, j'ai absolument aucune idée du résultat des élections. J'espère, comme j'imagine bon nombre d'entre nous, que Trump ne sera pas le nouveau président des États-Unis, parce que pour le coup, ça ne concerne pas que les Américains. Enfin, voilà, je veux dire, c'est absolument évident qu'il y aura des relations très directes entre cette élection-là et ce qu'on va vivre au quotidien, y compris avec l'Ukraine, etc., etc. Mais on peut espérer effectivement qu'il y ait quelque chose qui bouge du côté du. Alors, on va dire. Alors, du camp progressiste démocrate qui a certainement à se recomposer, voilà.
Comment vous voyez cette situation, vous, Maëva, qu'il avait peut-être une autre façon de l'aborder que nous? Est-ce que la démocratie, c'est important pour les gens de votre tranche d'âge?
Ah ben bien sûr, je pense que c'est important de laisser à chacun son opinion et la montrer. Après, comme a dit Jean-François, oui, ces élections américaines, c'est pas seulement un enjeu pour les Américains, mais aussi pour nous, petit français, et pour tout le monde. Donc, oui.
Ça vous inquiète de voir, vous qui embrassez une profession qui, normalement, doit rapporter des faits tels qu'ils sont, ça vous inquiète cette manipulation de l'information, cette ambiance qu'il y a autour des fake news, autour du mensonge, autour des différents tripatouillages qu'en plus l'intelligence artificielle permet amplement aujourd'hui, tant dans les textes que dans les photos?
Exactement, je trouve que c'est dommage de salir entre guillemets le journalisme comme ça. Après, oui, c'est à nous aussi de faire attention, de différencier tout ce qui est produit par les intelligences artificielles.
Mais comment peut-on le faire? Est-ce que le professionnel, oui, on l'a vu dernièrement, les agences de presse sérieuses ont refusé une photo qui avait été faite par la princesse, oui, dont le nom de Middleton, oui, voilà,
j'ai bien compris, je connais pas trop
je les fréquente très peu aussi, oui. Mais bon, là on l'a vu et ils ont refusé de publier, c'est les grandes agences de presse nationales, mais parce qu'ils ont les moyens de voir ce genre de choses. Mais le Vugus Pécom, là, quand il ouvre son journal, qu'il regarde sa télé ou plutôt maintenant son smartphone, il le voit pas, ça. Donc, soit vous fermez votre téléphone, vous ne regardez plus rien, soit vous passez des heures à essayer de distinguer le bon gré de l'ivraie. Comment c'est possible?
Il faut s'informer. Après, beaucoup d'internautes ont remarqué les erreurs sur la photo de Kate Middleton. Donc, je pense que tout le monde n'est pas aveugle.
Oui, mais pour autant, ça quand même, ça pose problème. On va voir dans les élections qui vont se passer en Europe, on y reviendra certainement à ce micro. On sait que l'influence des hackers russes, comme elle sera aussi prédominante dans l'élection américaine, on sait qu'il y a des gens dont c'est le métier d'induire les autres en erreur.
Oui. Après, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est plutôt les personnes âgées qui relayent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ne se rendent pas vraiment compte de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui numériquement. Donc oui, il faut informer tout le monde.
Informer, il y en a qui le font. Encore faut-il que les gens ne soient pas, comme le dit l'expression, l'homme d'un seul livre, qu'ils aillent recouper, regarder. Mais pour ça, il faut avoir du temps, il faut avoir un minimum de bagage culturel, peut-être. C'est ouais. pas donné à tout le monde, oui, Jean-François.
D'autant que c'est d'autant plus difficile à faire que quand même, c'est beaucoup plus satisfaisant de se faire confirmer par la soi-disant actualité le penchant qu'on pourrait avoir par rapport à ce qui se passe. C'est bien ça qui est assez dévastateur, c'est-à-dire que les fake news sont souvent des choses qui permettent aux gens de se conformer, aux gens qui sont victimes, on va le dire comme ça, et actrices, puisqu'on parle là pour le coup aussi de diffusion horizontale de l'information, ce qui est le propre des réseaux sociaux, qui change par rapport à ce qu'a pu être la presse, mais parce qu'à la fois, ça va dans le sens effectivement de ce qu'on pense.
Le biais de confirmation.
Exactement. En termes joliment dit, il s'agit de ça. Voilà. Et la deuxième des choses, peut-être aussi, c'est parce que, et ça a été, semble-t-il, très fort autour de ce qui a pu se passer autour de Trump et dont on n'est vraiment pas du tout à l'abri, moi, je trouve, qui est celle de, pouvoir faire partie des gens qui savent, vous savez, les fameux sachants, c'est-à-dire de déconstruire un réel qui nous est imposé. Et je vais faire un lien peut-être un peu osé avec le point précédent. Quand on voit la manière dont l'information, on parlait tout à l'heure de pourquoi sous cette forme, quand on voit la manière dont la politique est menée en communiquant, c'est-à-dire en manipulant l'information, ça ne peut, de mon point de vue, que de conforter effectivement la tendance qu'il peut y avoir à dire de toute façon, ce qu'on me raconte n'est pas la réalité. Et je vais essayer de faire partie éventuellement des gens qui ne se laissent pas influencer par rapport à ce genre de choses. Je veux dire, on est perdant-perdant, tout ça me paraît quand même faire partie d'un même système de fonctionnement ou d'une même logique. Voilà, on est dans de la manipulation. Alors la politique, c'est manipuler les symboles, mais c'est arrivé à un certain point que Pierre qui n'est pas là, on pourrait dire, je pense,
il n'est pas là, mais on le fait parler. Hein,
voilà, donc on le fait parler, on en profite comme ça, c'est mieux. On quitte le symbolique pour atteindre l'imaginaire. Voilà, c'est-à-dire que quand le symbolique est plus attaché au réel, ça devient de l'imaginaire et ça devient n'importe quoi et ça ouvre la voie à tous les fantasmes, les pires. La haine, le racisme, l'affirmation de soi, etc., etc. Voilà.
Donc ça veut dire que les populistes ont de beaux jours devant eux ?
Ah, c'est à l'évidence.
Dans un traité de cette question, je le rappelle, il y a quelques semaines, hein, avec l'ex-président de l'Institut d'études politiques. Mmh. Donc si vous pouvez retrouver notre conversation sur l'avenir de la démocratie, l'émission Ça va mieux sur ce sujet et bien évidemment sur le site de la station. Alors troisième sujet, parlons de la situation dans la bande de Gaza, hein, de cette guerre Israël-Hamas. On doit être au 159e jour, je crois, je ne sais pas tous compter, mais oui, guerre à peu près. Deuxième ou troisième jour de Ramadan dans la bande de Gaza, sous les bombardements israéliens, sans qu'une trêve, vous voyez, le lapsus révélateur, n'ait été conclue à temps dans la guerre. Résultat, agressions et massacres se poursuivent, avec comme première victime une population palestinienne épuisée, dénutrie, sans aucun accès aux services de santé, et tout ça au milieu d'un paysage en ruine. Quand vous regardez les photos, quand vous regardez les reportages à la télévision, c'est tout à fait sédissant. Donc nous sommes au premier, deuxième, troisième jour de jeûne pour les musulmans. L'armée israélienne a attaqué plusieurs villes dans l'enclave. Les États-Unis, qui est Biden, qui n'a jamais beaucoup d'ailleurs porté Netanyahou dans son cœur, craignent que la situation, c'est le mot qu'employait Biden, ne devienne très dangereuse, notamment à Jérusalem-Est, si les combats continuent pendant des mois. Je pense que M. Netanyahou, qui joue son avenir politique et peut-être sa liberté, puisque les tribunaux de son pays l'attendent avec une certaine impatience, qui n'a aucun projet politique pour sortir de cette épreuve, mais il multiplie les efforts de guerre afin de pouvoir durer au pouvoir. La communauté internationale, elle multiplie les efforts pour faire parvenir de l'aide à la population qui est totalement frappée par la famine. Alors c'est des efforts un peu dérisoires. Hein. On parachute
au milieu des bombes, on parachute
quelques vivres,
alimentaires.
Voilà, on dit on va envoyer des bateaux. Il y a des dizaines de bombardements israéliens qui visent plusieurs régions du territoire palestinien, selon les autorités du Hamas, notamment la ville de Gaza au nord. Khan Younes et Rafah qui est au sud. Les bombardements en 24 heures ont fait 67 morts, donc ça va très vite. On parle de 3000 morts. Ce sont des chiffres donnés par la Hamas. Alors, un peu de mal, là, il faut peut-être les prendre avec des pincettes.
Oui, mais sur ce recoupe quand même.
Voilà, on arrive à recouper, oui.
Les organisations internationales donnent des chiffres qui sont assez proches de ça, quand même.
Et donc, il y a des gens qui sont tués. Ben, on a vu une famille de 4 personnes tuées par une frappe sur leur maison pendant les prières à l'aube à Rafah.
Oui, bon, voilà, serait-il d'ailleurs 10 fois moins nombreux que ce serait aussi scandaleux.
C'est pas
la hauteur du tas de cadavres qui fait.
Alors, des exemples, ils peuvent être multipliés. Puis on oublie un peu ce qui se passe en Cisjordanie, où les colons qui sont implantés illégalement, effectivement, ont transformé le pays en Far West. Alors, comment appeler au soutien de l'Ukraine ? Et on le sait, on l'a dit ici, il faut soutenir impérativement ce pays dans son intérêt, mais aussi dans le nôtre. Et comment peut-on rester taisant devant une autre agression ? Au surplus, celle d'une population sans défense et qui était déjà, quand même, il faut bien le dire, plus ou moins martyrisée. Le parallèle n'est peut-être pas totalement pertinent, mais à minima, il est quand même extrêmement troublant. Jean-François ?
Oui, alors, je voudrais reprendre un bout du brillant exposé, là. Netanyahou n'aurait aucun projet politique, je ne suis pas sûr, il y a un projet politique.
Ah ben c'est d'éradiquer les Palestiniens et de,
ça s'appelle un projet
faire qu'ils dégagent. Oui,
bien sûr, bien sûr.
Il l'a toujours eu, hein, c'est pas nouveau.
Justement, oui, alors il l'a toujours eu et c'est une certaine forme du projet sioniste porté par une partie qui est une partie des Israéliens. Qui toujours est au pouvoir, c'est l'extrême droite israélienne qui est au pouvoir. On voit d'ailleurs ce que donne une extrême droite au pouvoir, hein. Et elle porte un projet qui est un projet qui devrait. Elle met en œuvre quelque chose qui a toujours été quand même ambigu dans une bonne partie de la population en Israël. Dans leur rapport avec les Palestiniens et plus globalement les Arabes. Le pire est en train d'arriver de ce point de vue-là. Et là aussi, c'est pas faute d'avoir averti depuis des années, parce que c'était hélas tout à fait prévisible. Voilà. Alors, ce qui est absolument insupportable, c'est que effectivement, on a l'impression aujourd'hui que le gouvernement israélien s'assied, y compris sur le droit international, avec une.
Il s'est toutes les résolutions de l'ONU n'ont jamais été appliquées.
Voilà, avec un cynisme qui est un cynisme absolu, et que on a quand même. Moi, je dois avouer être un peu, comment dire, un peu indigné, mais le terme est tellement.
L'euphémisme.
Voilà, de la manière dont la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et à Gaza et nous est rapportée et la manière dont c'est commenté, voilà, par la presse, par le personnel politique. On commence enfin, me semble-t-il, à se rendre compte de ce qui est en train de se passer à Gaza. Je pense que Netanyahou n'arrêtera pas. Il fait partie des gens qui, de toute manière, ont le pouvoir. Ils sont capables de le garder à n'importe quel prix. Il l'a déjà démontré.
Il est comme Poutine. C'est la fuite en avant qui lui permet de rester
bien au sûr,
pouvoir.
Bien sûr, bien sûr. Mais il a d'autant plus de fuite en avant. Enfin, cette fuite en avant s'appuie sur une réalité qui est une réalité qui peut y avoir dans le pays. Moi, je suis assez perplexe, je suis assez choqué
du fait que une bonne partie, semble-t-il, de la population israélienne approuve la politique de Netanyahou.
Je ne sais pas si on peut parler de bonne partie, parce que...
Alors, les sondages, si tant est qu'on veuille bien apporter, on puisse leur faire confiance, il me semble qu'une partie des gens qui sont... Et alors, soyons clairs, je condamne bien entendu ce qu'a pu faire le Hamas, qui était effectivement un acte terroriste, et c'est absolument hors de question que je puisse dire le Hamas est un mouvement de résistance, point, et c'est juste ce qu'ils ont fait, etc., etc. Mais il y a quand même aujourd'hui, j'espère que il va y avoir un débat et une clarification sur le projet qui est le projet sioniste, hein, sur le projet de je pense que l'État d'Israël doit être un acquis, qui est un acquis international, pas revenir là-dessus, mais il me semble qu'il faut que à l'intérieur d'Israël, il y ait vraiment un débat qui est un débat à l'échelle du pays pour clarifier quel est le type d'avenir qu'il se voit en tant que pays et le type de rapport qu'il souhaite instaurer avec les Palestiniens, dans un cadre certainement qui est un cadre de deux États, parce que je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire autrement. Autrement dit, il y a vraiment un boulot à faire de ce point de vue-là, et je pense qu'on n'y est pas encore, quoi. Et c'est pour ça que Netanyahou peut continuer.
Il y a beaucoup d'Israéliens qui, avant les massacres perpétrés par la Hamas, s'opposaient durement à Netanyahou. On est descendu dans la rue avec des manifestations de masse, parce que ça reste quand même un pays démocratique, même aux mains de l'extrême droite. Et encore une fois, vous avez raison, Jean-François, on voit ce que donne l'extrême droite au pouvoir.
Mais on voit ce que donnent des fois des démocraties qui n'ont rien à envier avec des dictatures au niveau des effets des politiques qu'elles mènent quand même. De ce point de vue-là, le blanc-seing au prétexte que ce pays serait une démocratie qui permettrait de dire que ce qu'il fait serait éventuellement moins grave que les dictatures, j'ai du mal à entendre. C'est une démocratie avec une extrême droite au pouvoir.
Il y a quand même des Israéliens, non des moindres, qui ont très nettement dit les choses. Regardez Eli Barnavi, ancien ambassadeur en France.
Complètement.
Voilà. Regardez Delphine Horviller, son dernier livre.
Oui, Ronnie Broman aussi, voilà, qui dit des choses sur le fait que le danger que met... le danger qu'il vit, lui, en tant que juif, par rapport à la politique que mène le gouvernement israélien. Mais je pense que c'est... Bien sûr qu'il y a des éléments et qu'il y a des voix qui sont des voix qui se font entendre. Ce que je désespère, c'est de leur capacité à instaurer un débat qui soit un débat qui fasse que, ça, à un moment donné, les choses changent.
Les seuls, le seul qui puisse aujourd'hui peser dans la balance, c'est Joe Biden, qui a la main sur à la fois la cassette, l'argent et sur les armes.
Et on croit mourir pour la patrie.
Voilà. On va pas rappeler Anatole France. Mais c'est vrai que c'est le seul, et il a quand même du mal à se faire entendre de Netanyahou. Au surplus, la campagne américaine pèse sur ces événements, parce que faut-il privilégier les Palestiniens et perdre le vote juif, ou l'inverse ?
Grande question,
et Netanyahou se dit que divine surprise pour lui, Trump est réélu, c'est tout bon pour les thèses qu'il défend. Et là, on peut tout craindre, au moins le peuple palestinien peut tout craindre. On a vu dans les universités américaines des jeunes se mobiliser pour les Palestiniens.
Oui.
Maëva, en France, vous qui fréquentez un peu ou les écoles professionnelles, universités, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on en parle ? Et si oui, quelle position on prend ?
Ah oui, on en parle beaucoup. En même temps, en France, rien qu'hier, il y a eu encore des manifestations pour la Palestine. Oui. Tout le monde est plus du côté de la Palestine, surtout dans les écoles universitaires, en fac, plus précisément. Voilà.
Les étudiants considèrent que c'est un vrai problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui les choque le plus ? L'injustice, les massacres ?
Je pense que ce qui choque le plus, c'est que le combat continue, enfin le conflit continue.
Bon, allez, je crois qu'on reviendra sur ce sujet. Cette guerre risque de durer peut-être autant que celle de l'Ukraine. Je ne sais pas, je ne le souhaite pas, bien évidemment, mais nous remettrons bien sûr à l'ordre du jour ce sujet et essayer d'échanger des informations ou de réfléchir ensemble à ce que pourrait être une solution. Je vous propose à présent d'en terminer avec notre quatrième sujet. Alors, le fameux feuilleton de l'autoroute A69, hein, construction d'une autoroute totalement inutile qui se poursuit, comme le massacre de la nature qui l'accompagne. Allez sur le site, je l'ai longé de bout en bout, c'est Pompéi après l'éruption, hein. Le tout avec la bénédiction des politiques locaux dont aujourd'hui l'irresponsabilité est patente. Ceux-ci n'ont donc strictement rien compris à l'époque où nous vivons, n'ont toujours pas intégré que nous devons d'urgence changer nos façons de vivre sous peine d'en payer lourdement le prix et surtout nos enfants. On va même à l'initiative de l'État, cette fois-ci, user de méthodes violentes et dégradantes vis-à-vis des opposants au projet, à tel point d'ailleurs que vous avez vu, il y a un rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, qui a demandé que le travail de la presse soit facilité sur le site occupé par les opposants au projet de l'autoroute A69, puisqu'il n'est pas temps aujourd'hui que leur mission d'information est extrêmement menacée. Bref, il faudra nous souvenir dans quelques temps, au moment de glisser un bulletin dans l'urne, une fois encore, on pensera à ce personnel politique qui n'a toujours pas intégré que ce qui est devant nous est grave et quasiment existentiel pour nous d'une part, mais surtout pour nos descendants. Il est inutile, me semble-t-il, de reconduire au pouvoir des gens aveugles et sourds, incapables de protéger les intérêts premiers de leurs mandants. Ils nous le démontrent tous les jours qu'ils ne sont pas à la hauteur de la situation. Alors, on a quand même un témoin privilégié, puisque Jean-François, vous avez été sur le site, et donc vous pouvez nous donner un peu l'ambiance qui règne. C'est un témoignage de première main, si je puis dire.
Oui. J'ai passé un moment, une journée sur site, il y a de ça quelques jours, puisqu'il y avait une mission de l'Observatoire des pratiques policières, là, qu'on a déjà évoqué ici.
Ici, hein, ouais, voilà, à plusieurs reprises.
Dans lequel j'interviens aussi. Et j'ai pu effectivement constater ce qui se passait, hein, à un moment où... c'est un moment qui n'a pas trop bougé, d'ailleurs, depuis maintenant une semaine, hein, une dizaine de jours, qui est qu'on a ce qu'on appelle des écureuils, c'est-à-dire des gens qui sont dans les arbres, et qui se sont réfugiés dans ces arbres pour éviter qu'on les abatte, qui sont des arbres multicentenaires, pas tous d'ailleurs, mais dans un bois qui est un bois qui a été classé d'intérêt écologique, et dont le statut d'ailleurs et la manière dont les travaux sont faits en ce moment laisse à penser que il y a eu, comment dire, des facilités qui ont été prises par rapport au classement. Alors c'est un endroit, c'est assez surréaliste, hein, c'est-à-dire que on a un bois clôturé et fermé dont l'accès est interdit par des gardes mobiles, par la gendarmerie nationale. C'est-à-dire que personne ne peut pénétrer effectivement dans cet espace-là, au prétexte annoncé par les gendarmes qui gardent le lieu, qu'une procédure judiciaire est en cours, sans que, moi je peux le vérifier, je peux en attester, sans que aucun papier ne soit donné à quiconque pour justifier du fait qu'effectivement il y aurait quelque chose en cours de ce point de vue-là. D'ailleurs, le préfet vient d'être interrogé à ce sujet, en lui demandant de justifier effectivement de l'interdiction d'accès à cet endroit-là. Voilà. Aujourd'hui, la situation, c'est effectivement qu'il y a ces écureuils qui sont dans les arbres, et depuis 10 jours, on les affame. En gros, hein, c'est un petit côté médiéval, c'est-à-dire que les gendarmes interdisent le fait qu'on ravitaille en eau et en nourriture les gens qui sont perchés dans les arbres et dont on peut imaginer qu'ils attendent que ça rappelle un peu les grands sièges dans lesquels on affamait les populations à l'intérieur des cités, derrière les remparts.
Ce que le code pénal appelle la non-assistance à personne en danger.
Alors, ce qui met effectivement en danger par rapport à la situation de ces personnes-là, d'autant qu'il y a eu, il semblerait que ce soit moins le cas, des interventions à partir de nacelles, de gendarmes spécialisés qui seraient là pour rendre la vie impossible aux gens qui sont dans les arbres, voire qui, pendant un temps, ont essayé de les appréhender, tout ça se passant à une dizaine ou quinzaine de mètres de haut. Vous imaginez un peu la prise de risque que ça peut représenter. Je passe sur le fait qu'on a foutu le feu sous les arbres, qu'on a fait du bruit toute la nuit pour empêcher les gens de dormir, etc., etc. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant ce qui se passe.
On est loin de la devise de la gendarmerie, là, non?
C'est sûr que du côté de la protection, alors, des comptes vont continuer à être demandés, effectivement, aux gens qui ont pris ces initiatives-là, au regard de la mise en danger réelle que ça représente. Le délégué de l'ONU, Michel Forst, n'a pas fait autre chose que constater ce genre de choses-là, parce que lui, et pas de façon évidente, a quand même réussi à rentrer en contact avec les, entre guillemets, écureuils, et il a pu mesurer effectivement la situation. Alors, je peux pas, là aussi, m'empêcher de penser, pour avoir vécu, là aussi, dans le cadre d'une commission d'enquête, ce qui s'est passé à Sivens à propos de la mort de Rémi Fraisse, et aussi avoir suivi de très très près ce qui s'est passé à Sainte-Soline avec les violences qui ont émaillé les manifestations qu'il y a pu y avoir à ce moment-là. On peut quand même se poser la question de la... Enfin, moi, je me pose, et on est nombreux à se poser la question, de la manière dont ce genre de procès, de projet, là aussi le lapsus est significatif, ce genre de projet est imposé à des gens, alors, qui n'en veulent pas. Je pense qu'il y a un décalage maintenant qui va falloir complètement réduire en transformant les modalités de prise de décision publique. Hein, que ces projets-là sont des projets qui sont pris avec des enquêtes d'utilité publique dont on peut se poser des fois les questions sur la pertinence, mais qui par ailleurs le font sur des modalités qui sont des modalités, j'ai envie de dire, de la... Au mieux du XXe siècle, alors que nous sommes au XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on ne regarde que les intérêts économiques, sans jamais poser la question des intérêts écologiques, et que on ne donne la parole qu'à des personnes qui sont des personnes directement dans un territoire très restreint, alors que ce genre de projet aujourd'hui, on sait très très bien que ça interroge ce qui se passe entre Toulouse et Castres en termes de construction d'une autoroute, a un impact qui va au-delà du suivi qui est le suivi de l'autoroute en tant que tel. Ça concerne, comme la retenue de Sivens, aller au-delà uniquement des simples riverains du barrage. Et que ça a un impact aussi dans l'espace qui va au-delà du simple objet qui est considéré et dans le temps. Ce qui va se passer avec l'autoroute, hein, la construction de l'autoroute, a un impact qui va largement aller au-delà des 15 prochaines années, mais qui est une transformation, dans le temps. Et c'est ça, je crois, que c'est ce à quoi renvoient les gens qui se mobilisent par rapport à ça.
Vous parliez d'intérêt économique. Il n'a jamais été prouvé qu'une autoroute amène de l'emploi, amène des investissements industriels ou pas.
C'est un autre point commun.
C'est même l'inverse, qui a été démontré par les études.
Oui.
Également, on n'écoute pas un certain nombre de scientifiques, et non des moindres, parce qu'on n'écoute pas les scientifiques en France, pourtant c'est eux qui savent, qui ont dit tout le mal qu'il fallait penser écologiquement parlant de ce genre de choses. Et on a eu un certain nombre de responsables politiques qui ont été attendus à l'Assemblée, je crois, assez récemment, et l'un d'eux est non des moindres au niveau de notre région, et que pour lequel d'ailleurs j'ai la plus grande affection par ailleurs, mais qui a dit « Bah écoutez, je comprends pas ce projet, ça fait plus de 20 ans qu'on l'a décidé, et je ne comprends plus rien à mon époque ». Faisant ces réflexions, quand on le regarde avec un peu de décalage, on se rend compte quel est l'état d'esprit de ces hommes politiques qui, on peut le dire, ont absolument tout faux.
Oui. Et là aussi, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui est en jeu et la manière dont les procédures dans l'ombre ont pu être mises en œuvre. On avait cette question-là à Sivens. Il y a des jeux d'intérêt qui laissent perplexe par rapport à l'utilité publique de ce genre de procédé. Le fait est, c'est que de toute façon, sur place aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'une situation qui est une situation complètement coincée et dans laquelle la gendarmerie et la préfecture jouent un drôle de jeu.
Et puis rappelons qu'une autoroute, pourquoi faire ? Pour gagner, paraît-il, un quart d'heure, à un prix défiant toute concurrence, puisque ça devrait être l'autoroute la plus chère de France.
Oui, 20 euros l'aller-retour.
Voilà, au 21e siècle.
On est à 18 maintenant, oui, on peut imaginer qu'on sera à 20 au moment où il sera construit.
C'est vraisemblable. Voilà. Donc, on peut demander à quoi ça sert. Enfin, c'est le genre de projet complètement imbécile qui, peut-être, il y a 20 ans, 30 ans, pouvait avoir une justification qui aujourd'hui n'en a plus. On a bien assez de routes en France et on sait qu'on pouvait améliorer la route existante avec beaucoup moins de tracas pour les uns et pour les autres, beaucoup moins de pollution. Malheureusement, c'est un peu comme la LGV qui devrait nous permettre de rejoindre Paris en gagnant, je crois, trois quarts d'heure, c'est ça ? Avec un prix défiant toute concurrence. On se demande d'où sortent ces grands projets. Et franchement, les politiques qui les portent, et notamment nos politiques régionaux, on peut s'interroger sur leur capacité, sur leur vision, sur l'avenir qu'ils nous préparent.
Oui, c'est la question que posent aujourd'hui les gens qui sont effectivement mobilisés sur le chantier de la 69.
Alors j'imagine que Maïva, sur la 69, ça vous agite pas encore trop, mais ça fait partie du reste, ça fait partie d'un ensemble de... Quand on sait que si l'on veut sauver l'homo sapiens, et si l'on veut qu'il vive à peu près mieux et qu'il puisse rester sur cette terre un peu plus longtemps... Il va certainement falloir avoir une autre vision du monde et de notre mode d'y être dans ce monde. Et donc, là aussi, nous avons les politiques qu'on mérite, il paraît, mais moi, il me semble qu'on mérite un peu mieux quand même. Allez, nous sommes arrivés à la fin de nos sujets, et puis je vous propose de passer à nos rubriques de fin d'émission, que sont les brèves, le ça va mieux, et le conseil culturel. Alors les brèves, bien écoutez, j'ai la parole, je la garde, Jean-François.
Vous avez, ça va mieux, ça
oui,
aussi.
Alors mais je vais commencer par ma brève, on viendra au ça va mieux après.
D'accord.
Alors ma brève, moi je voudrais parler du Front National, on en parle beaucoup. Il est très bruyant quand on l'entend comme ça. Quand il est en Europe, il l'est un peu moins au niveau de l'Europe, au niveau du Parlement européen notamment, il est beaucoup plus discret. Vous savez qu'il fait partie d'un groupe qui s'appelle Identité et Démocratie. C'est tout un programme.
Ça ne s'invente pas.
Voilà, ça ne s'invente pas. Donc, c'est le groupe au Parlement européen qui a été rejoint par des Bulgares du parti Vazrajdan. Excusez-moi de l'accent que je n'ai pas. Alors, c'est des gaillards très sympathiques et qui adorent Monsieur Poutine, qui revenait d'ailleurs d'un très beau séjour à Moscou.
Ça ne se refait pas l'heure non plus.
Voilà, où ils ont assisté à un colloque animé par Monsieur Dimitri Medvedev, dont nous connaissons les diatribes à l'égard de l'Occident, et par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, et ça s'appelait, je vous le donne en mille, ce colloque pour la liberté des nations. Il faut le faire quand même.
Voilà.
Alors, ce qui est beaucoup moins drôle,
c'est là où on remigre.
Voilà, c'est là où on remigre. C'est que ces députés de Vazrajdan au Parlement ont accès à des informations classifiées et à des données assez variées, sensibles, notamment sur l'Ukraine. Voilà, et que le groupe Identité et Démocratie est crédité pour l'instant. Tout ça peut évoluer, mais enfin bon. 92 sièges aux futures élections. Donc ça peut quand même... c'est une enquête très étayée du Washington Post que vous pourrez relire si vous voulez. Et ces gens reprennent les éléments de langage distillés par le Kremlin pour saper le soutien européen à l'Ukraine. Marine Le Pen s'est élevée quand on a dit ça. Elle a dit non, c'est une cabale.
Oui, mais c'est terrible voilà. Comme on essaye de discréditer le Front National ou le Rassemblement
National.
Oui,
les pauvres, ils sont à plaindre. Plaignons-les. Une brève, Jean-François ?
Oui, alors écoutez, c'est étonnant parce que je vais parler du Front National, du Rassemblement National et de l'Europe. Voilà. Mais alors avec un autre angle d'attaque. C'est juste pour évoquer un monsieur qui est un énarque anciennement chevènementiste et qui petit à petit a semble-t-il affirmé un tempérament qui est un tempérament nationaliste, peut-être plus au-delà de son appartenance chevènementiste, qui s'appelle Fabrice Leggeri. C'est l'ancien directeur de Frontex. Frontex, vous savez, c'est l'agence qui est l'agence de surveillance des frontières de l'Europe pour se protéger des vilains migrants qui viennent manger le pain de nos...
Agence dans laquelle il n'a pas véritablement brillé.
Non seulement il n'a pas brillé, puisqu'il en a été démissionné.
Voilà.
parce que certains mettaient en doute ses capacités à être honnête au regard éventuellement d'affaires dans lesquelles il aurait trempé de délits d'initiés. Par ailleurs, au-delà de ces simples indélicatesses, ce monsieur est fortement soupçonné comme ayant été un des auteurs de la mise en œuvre de la politique Frontex qui a produit ce qu'on sait en Méditerranée et qui est dans lequel se sont noyés un certain nombre de migrants sous l'œil impavide de l'agence. Voilà. Mais ce monsieur, donc, vient de rejoindre les rangs du Rassemblement national et de prendre poste en bonne figure sur la liste qui est la liste des prochaines européennes. Voilà. C'est ça, ça, voilà quelqu'un, voilà la trajectoire de quelqu'un qui en dit long aujourd'hui sur à la fois le Rassemblement national, mais aussi plus largement sur, les insuffisances de la politique européenne en termes de politique d'accueil migratoire.
Comme l'on dit dans les campagnes, qui se ressemblent, s'assemblent. Allez, on s'en va mieux. Alors, moi, je vais parler d'un monsieur qui s'appelle Rifaad Al-Assad. Vous le connaissez, Jean-François ?
Non.
Non, bon, remarquez, c'est pas plus mal. C'est l'oncle du président syrien, Bachar el-Assad.
Ah, ben oui, oui, ça.
Qui est poursuivi en Suisse pour crime de guerre depuis 2013. Donc, les Suisses sont meilleurs que nous. On félicite les Suisses et on soupçonne ce brave garçon d'avoir commandité l'assassinat de plusieurs milliers de civils, excusez du peu, et d'opposants politiques dans la ville d'Hama, en Syrie, quand il dirigeait les brigades de défense de très mauvaise réputation qui s'appelait Saraya al-Difa. Et 2 ans après le lancement d'un avis de recherche suisse à son encontre, eh bien, il a été renvoyé il était vice-président de la Syrie quand même, devant le tribunal pénal fédéral suisse pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est le parquet suisse qui l'a annoncé le 12 mars. Donc les Suisses sont quand même meilleurs que nous. Nous, on se contente de donner des leçons de droits de l'homme. Et puis, il y en a qui agissent. Bravo à nos amis suisses. Jean-François.
Alors, pour redorer le blason de la justice française, moi aussi, j'ai un « ça va mieux » qui est du côté de la justice, décidément. Alors, ça se passe chez nous, proche de Toulouse, puisque c'est le tribunal administratif de Toulouse, qui devait délibérer par rapport à des décisions prises par le préfet de la Haute-Garonne concernant l'hébergement des personnes en difficulté ou en précarité. Alors, je trouve que ça va un peu mieux du côté de la justice, parce que le tribunal administratif de Toulouse ne nous a pas tout le temps habitués à être complètement collés aux principes républicains fondamentaux sur lesquels nous fonctionnons, et en restant très prudemment sur des logiques qui sont des logiques de forme. Là, il est allé au fond et il a rappelé à monsieur le préfet, ce faisant, il a condamné la préfecture de la Haute-Garonne en rappelant que le code de l'action sociale et des familles stipule que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou social, a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence, et que toute personne peut en bénéficier sans que la régularité ou l'irrégularité de son séjour en France ne puisse être prise en compte. Ça va mieux parce que, d'abord, encore une fois, le tribunal administratif ne nous avait pas forcément habitués à ça. Et la deuxième des choses, c'est parce que ça concerne une situation d'une ville qui est quand même la 4e ville de France, dans laquelle nous avons des dizaines, et quand je dis des dizaines, je suis modeste, de gens qui vivent à la rue. Il y a aujourd'hui à Toulouse des gens qui sont dans des squats, dans des conditions indignes, des gens dorment dans les voitures, et quand je dis des gens, ce sont des enfants, des mineurs, des familles avec des nourrissons, voilà. Et le tribunal administratif a enfin rappeler les droits fondamentaux à la préfecture de la Haute-Garonne. Que croyez-vous qu'il arriva ? La préfecture continua.
Oui, c'est assez classique chez les préfets. Métier un peu compliqué à exercer. Il doit falloir avoir beaucoup de souplesse pour faire ce job si particulier. Conseil culturel, pour en terminer, moi, 2 lectures. On en a parlé tout à l'heure, hein, la Cour des comptes et son rapport. Alors, dans ce rapport, notamment...
C'est pas un roman.
Hein. Non, c'est pas un roman, mais c'est intéressant parce qu'elle décrypte le retard de l'État dans l'adaptation des règlements climatiques. Et elle a consacré presque entièrement le rapport là-dessus. Et l'institution, encore une fois, vous l'avez dit, hein, ils ne sont pas des gauchistes ni des éco-terroristes, juge que la France n'a toujours pas pris la mesure de l'enjeu et demande la mise en place d'une véritable planification. Tiens, on croyait que auprès de Madame, à l'époque, Première ministre, nous avions des spécialistes de la planification. Rassurez-vous, on n'a toujours pas commencé à parler, même à agir en matière de transition écologique. Alors justement, un excellent bouquin, je me suis régalé à le lire. Il a été écrit par Jean-Baptiste Frézoz, qui est un historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Il a été maître de conférence à l'Imperial College de Londres. Il est chercheur au CNRS, enseignant à l'EHESS, donc l'École des hautes études en sciences sociales, et à l'École des ponts et chaussées. Et il nous a fait un bouquin qui s'appelle « Sans transition », sous-titré « Une nouvelle histoire de l'énergie », chez au seuil, chez Écocène. Et c'est fabuleusement intéressant. On retrace le parcours des différentes énergies dont on pourrait penser que, par phase, on a eu d'abord le bois, puis on a après le charbon, puis après
c'est comme ça qu'on se le raconte.
Voilà, c'est comme ça qu'on se raconte. Puis après, on aura le nucléaire pour partie, etc. Eh ben non, pas du tout. Il nous démontre, et c'est un livre extrêmement renseigné, mais c'est passionnant. Alors là, par contre, ça se lit comme un roman, et il explique comment les matières, les énergies sont reliées entre elles, qu'elles croissent ensemble, qu'elles s'accumulent, qu'elles se confortent et qu'elles s'empilent les unes sur les autres. Et ça nous explique les obstacles qualifiés par l'auteur de titanesques qui se dressent sur le chemin de la décarbonation. Achetez-le, lisez-le. Franchement, vous ne regretterez pas le prix que vous y aurez mis. Sans transition, Jean-Baptiste Frézoz, au seuil. Jean-François ?
Oui, alors s'il vous reste un peu de sous sur votre budget livre, j'en ai encore un à vous proposer. Alors voilà, c'est juste pour le fun, comme on dit. Hein, ça s'appelle « La distinction ». Et pour les gens qui ont lu le livre d'origine, qui est le livre de Pierre Bourdieu, hein, c'est qu'ils se rassurent, il s'agit là pour le coup d'une BD, d'une bande dessinée, qui est publiée à la Découverte Delcourt, de Tiphaine Rivier. C'est la distinction de Bourdieu, mais en bande dessinée, librement adaptée, pour les
accessible,
gens,
accessible,
complètement accessible pour les gens qui ont lu le livre initial. C'est quand même une sacrée différence. Et puis bon, c'est vraiment très marrant à lire. Et la deuxième chose, pour le coup, alors là, c'est le budget. Si vous avez le budget exposition, c'est gratuit. L'exposition dont je vais vous parler, elle se passe au lycée Urbain Vitry à Toulouse du 20 avril au 5 mai. C'est une exposition de l'artiste street art qui s'appelle Banksy, que tout le monde connaît.
Absolument.
Certainement, voilà. Et qui est une exposition qui est soutenue par bon nombre d'associations à Toulouse, notamment des associations de quartiers populaires. Voilà. Et qui ouvre un petit peu sur la réalité, qui est la réalité du monde. Et ça se passe dans un lycée qui est un lycée professionnel du bâtiment, dans un quartier limitrophe qui est celui des Isards, qui a rarement l'occasion de pouvoir vivre ce genre de choses-là. Allez-y, ça vaut le coup.
Eh bien, merci, mes amis. C'était Ça va mieux, une émission de Jean-François Millard, de Jacques Lavergne, avec la participation de Maëva Fell, sa première. Hein, c'est toujours difficile d'essayer de placer un mot avec
les deux crocodiles.
Les deux crocodiles, grands bavards que nous sommes. Au bouton, nous avions Léo Thorold, que je remercie. Et bien sûr, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle journée à toutes et à tous.